Salut à tous, bienvenue sur Raconte ta parentalité. Parents, c'est le plus beau métier, alors pourquoi ne pas la raconter? À chaque épisode, je recevrai une ou un invité, voire un couple. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Benjamin. Comment tu vas?
Eh bien, ça va bien. Merci, Amine. Et toi, comment ça va?
Ouais, très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Moi, je m'appelle Benjamin, de mon nom de famille, Benjamin Veil. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je suis une mère d'une grande fille qui va avoir 22 ans là, en mars prochain. Donc, je suis maman depuis très longtemps. En fait, maintenant, je m'apprête presque à être grand-mère. En tout cas, je suis plutôt de ce côté-là. Et puis, j'ai aussi accompagné pas mal d'enfants dans leur vie. Et certains sont même venus vivre à la maison. Donc, voilà.
Waouh, on va avoir plein de choses à se dire. Est-ce que tu veux bien nous raconter qui était Benjamin enfant?
Oula.
Ta composition familiale?
Alors, moi, j'ai grandi dans une famille relativement traditionnelle. Dans le sens où mes parents sont encore ensemble. Ils se sont mariés à 25 ans, voire même 23, entre 23 et 25, je ne sais plus exactement. Ils ont passé donc toute leur vie ensemble. Ils ont trois enfants. Je suis la dernière. Je suis la Benjamine de ma fratrie. C'est pour ça que je m'appelle comme ça.
Ouais.
C'est pour ça. C'était un peu l'argument de ma mère pour plus en avoir derrière. La Benjamin petite était donc un peu la petite dernière de la famille, mais alors pas vraiment la petite dernière que tout le monde a attendue et choyée, parce que pour le coup, on n'a que 2 ans d'écart avec mes frères et sœurs, et donc 4 ans avec mon grand frère, mais plutôt la petite dernière qui suivait le mouvement.
D'accord.
C'est-à-dire, j'étais plutôt dans l'idée que mes parents avaient les enfants s'auto un peu éduquaient entre eux, et puis avec l'idée que finalement la petite dernière elle suivait le mouvement, je récupérais les fringues de ma sœur, enfin voilà.
Ok. Au-dessus de toi, donc tu as un grand frère et une grande sœur?
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec tes parents dans un premier temps, et puis ensuite avec ta fratrie?
Alors, ma relation avec mes parents, t'es assez, j'ai envie de dire, classique, dans le sens où les parents avaient un monde et les enfants en avaient un autre. Et donc, on ne communiquait pas forcément énormément l'un avec l'autre. J'ai pas grandi dans une éducation où les enfants et les parents rigolent ensemble, font des trucs ensemble. Ça, c'était plutôt chacun son monde. Donc, une relation assez distanciée, finalement, avec mes parents. Un père très autoritaire, même si très émotif en même temps, mais quand même très autoritaire et très dans une représentation assez à l'ancienne de la paternité, donc qui venait plutôt mettre des punitions, faire le cadre, et une mère qui avait envie de faire sa vie aussi, qui quelque part, je pense, avait une sorte de frustration à sa situation de alors qui n'était pas vraiment femme au foyer, mais fallait être un peu entre deux, enfin voilà.
Elle
s'est remise à bosser à ma naissance, en
d'accord,
fait. Et donc avec l'idée justement que mon père la laissait travailler.
Ok. Voilà. Ok. Et avec tes frères et sœurs, du coup?
Alors avec mes frères et sœurs, c'est un peu, j'ai envie de dire, dans la lignée de cette relation avec mes parents. On était beaucoup un peu considérés comme une fratrie, comme un ensemble, et pas comme des individus totalement à part entière. Et avec l'idée aussi que on devait s'entendre dans l'absolu, quoi. C'était genre une évidence, alors que pas forcément. J'avais plutôt une bonne relation pendant un temps avec mon frère, qui était un peu plus distancié, et voilà. Et avec ma sœur, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de rivalité. Ma sœur a toujours été très très embêtée par ma naissance et par mon existence, et donc elle nous l'a bien fait payer à mon frère et à moi.
Elle l'a verbalisé ou c'est de l'ordre du ressenti?
Par exemple, j'ai une petite blague dans la famille qui raconte comment ma sœur a essayé de me tuer quand elle avait 2 ans.
Tu nous racontes?
Elle a essayé de me balancer par la fenêtre.
Ah ouais.
Voilà.
Non, parce qu'on a beaucoup entendu le coussin.
Le coussin
sur la tête.
Ouais, non, là, moi c'était clairement, là, apparemment, ma mère avait tourné la tête et en retournant la tête, j'étais au-dessus de la fenêtre, quoi.
Ok, donc on a de la chance de t'avoir aujourd'hui.
Apparemment, mais en attendant, je m'en souviens plus vraiment là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait des petites choses comme ça, une sorte de rivalité très, 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 très marquée, mais qui était aussi, je pense, liée au fait qu'on était beaucoup livrés à nous-mêmes dans cette représentation où les enfants s'auto-éduquent, quoi. Enfin, s'éduquent entre eux, quoi.
C'était un modèle où c'est les grands frères qui prennent soin des enfin, du coup,
sur le principe, et ta sœur... sur le principe, parce que mon frère n'était pas très investi de son rôle de grand frère, hein, loin de là. Le moins il s'occupait de nous, le mieux il se portait. Le plus il était enfermé dans sa chambre sur son ordi, le mieux c'était. Mon frère était un gros geek de l'époque. Donc de l'époque, c'est les années 80-90. Donc c'est vraiment le geek qui invente les ordis, quoi.
Ouais.
Donc c'était pas vraiment le mec qui était hyper là pour nous protéger, quoi. Enfin, loin de là. Et ma sœur était plutôt pas vraiment là pour protéger non plus, mais plutôt enfin il y avait plus, moi j'ai plutôt eu un sentiment de bouc émissaire d'être la dernière quand même,
hein, ouais,
voilà, d'être plutôt celle qui prenait tout parce que justement sans défense.
Ok. Benjamin, à l'adolescence, jusqu'à l'aube de ta majorité, tu nous racontes un peu ?
Alors là, ça change un petit peu. C'est-à-dire que Benjamin, à l'adolescence, va prendre un petit peu justement le pli des injustices, j'ai envie de dire. Et donc, il y a quelque chose qui me paraît complètement décalé, déjà parce que ma génération, je fais quand même partie d'une génération où je grandis, donc dans les années, je suis adolescent dans les années 90, où beaucoup de jeunes de mon âge, de là où je grandis, je suis dans le 91, entre Évry et Corbeil, dans un petit bled qui s'appelle Mency. Okay. Et tous les gens de mon âge ont beaucoup plus de droits que moi, quoi.
D'accord.
Enfin, plus de droits de sortir, plus le droit de faire des trucs. Enfin, c'est le début, j'ai envie de dire, de l'éducation, entre guillemets, un peu plus positive, entre guillemets. Et moi, mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Donc, j'ai un sentiment de décalage assez fort. Moi, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de mettre des jupes, j'ai pas le droit de me maquiller, j'ai pas le droit. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de pas le droit.
Jusqu'à quel âge, à peu près ?
Jusqu'à 18.
Ok.
Jusqu'à ce que je décide par moi-même, en fait. Tant que je vis chez mes parents, je m'adapte aux règles de mes parents et donc à la loi du père. Et c'est là que, donc à l'adolescence, je vais un peu rentrer en rébellion quand même un peu contre tout ça. J'essaye de trouver justement un peu ma place, ma voix. Et je vais notamment partir un an aux États-Unis pour essayer de me construire ailleurs, en fait.
Ok, tu pars à quel âge ?
Je pars à 15 ans.
À 15 ans, pendant un an, t'es fille au père ?
Non, alors je suis pas fille au père parce que je suis pas majeure, donc j'ai pas le droit de travailler. Je suis dans un lycée américain, dans une famille d'accueil.
Ok.
Et je vais vivre le foreign exchange student, quoi, dans une famille d'accueil.
Et tu nous racontes un peu cette expérience, donc du coup, tu t'émancipes un peu ?
Alors déjà, je m'émancipe, et puis c'est surtout que je découvre la liberté.
Ouais.
Enfin, je découvre ce que ça veut dire que d'être reconnue comme un individu. J'arrive dans une famille... assez formidable d'ailleurs, dont qui avait fui un peu New York pour aller un peu au vert, pour se mettre au vert. Hein. Et donc le père était entre taximan et joueur de billard. Et donc il avait fait tous les petits boulots new-yorkais, il avait vendu des hot dogs, enfin vraiment, on est voilà, sur autre chose. Et la mère était kiné, enfin elle venait de finir de payer ses études, donc voilà. Et qui avait eu deux filles avec 10 ans d'écart entre chacune.
D'accord.
Donc deux enfants uniques quelque part. Donc moi j'arrivais là-dedans dans un environnement où être une fille c'était pas un problème. Où on avait les mêmes droits, enfin, j'ai envie de dire que les autres. J'arrivais dans un endroit où on me disait que j'étais valable, que j'étais pas juste la petite dernière qui devait suivre et fermer sa bouche. Enfin, voilà. Donc vraiment un sentiment de liberté énorme. Et en même temps, ça va aussi me forger dans certaines représentations sur les injustices, notamment, parce que je découvre le racisme là-bas autrement qu'en France. Je ne le vivais pas du tout de la même manière dans les années 90 en France, dans ma banlieue, où on était quand même relativement mélangés. Là, je vois la ségrégation qui se met en place, je vois New York et le fait que quand même certaines communautés, notamment dans le Bronx, ont des dents et des yeux hyper abîmés, donc le rapport aussi à la santé, donc à tout ce qui est collectif, institutionnel, tout ça. Enfin voilà, à un âge ou à 15 ans, ça commence à m'intéresser sévère en plus.
Et du coup, comment ça se traduit, du coup, quand t'es face, justement, parce que du coup, là, t'es pas dans ton environnement, tout est nouveau, t'es jeune, mais en même temps, t'as vu peu de choses, parce que pas beaucoup sorti. Comment ça se traduit? Comment tu vis tout ça? Comment tu sors ton épingle du jeu et tu te construis, en fait?
Très bonne question, parce qu'en effet, c'est vrai que le fait de passer un peu du tout au tout, c'est-à-dire que moi, j'avais très peu de droits chez moi parce que j'étais une petite, et que tant que j'étais pas majeure avec mon bac et autonome financièrement, j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit, à justement complètement l'inverse. Mais comme dans le système scolaire, j'ai envie de dire. Enfin, je découvre aussi un système scolaire où on peut parler avec les profs. Donc je suis, en fait, j'ai presque l'impression d'être en mode, je découvre un nouveau monde là, et un nouveau continent. Et donc il y a une forme de liberté assez incroyable et qui va me... Enfin, je vais... je sais pas trop, tu vois, c'est une question que je me suis pas vraiment posée. Donc,
tu parles déjà anglais à ce moment-là ?
Alors, je parlais pas anglais au démarrage. Enfin, je parlais pas anglais. J'avais 2 ans d'anglais, comme on en apprend au collège en France. Donc, je savais dire « great ». Voilà, j'ai passé 3 mois à dire « great ». Et j'ai passé beaucoup de temps à observer, en fait. Okay. Ce que ça apprend surtout, c'est à observer. T'es pas chez toi, t'es pas dans ton environnement, t'es pas dans tes codes. Et ça a beau, t'as beau avoir suivi toutes les séries du monde américaines, parce que bon, c'était l'époque de Beverly Hills. Et donc, j'étais dans Beverly Hills.
D'ailleurs, ça y ressemble ou pas?
Alors, bah, ouais, il y a des trucs qui ressemblaient quand même. J'ai eu le prom, tout ça. J'ai eu tous les trucs un peu énorme pour nous français à l'époque, et c'est vrai qu'il y avait ce côté cette obligation d'être un peu humble en fait, c'est-à-dire de juste essayer de commencer par regarder, d'observer et d'essayer de comprendre avant de commencer par juger en fait, et ça pour le coup pour un français c'est bien. Parce que les Français, on a quand même une tendance à juger très vite, et moi en plus je venais d'un environnement où pour le coup il y avait beaucoup de jugements, où il fallait quand même être assez rapidement, pas comme ci, pas comme ça, enfin voilà, quand même beaucoup de cadres et de contraintes. Et donc là, de pouvoir quelque part être un peu venez comme vous êtes, un peu en mode McDo, y avait quelque chose qui était très agréable pour l'ado que j'étais.
Ouais. Et du coup, un an après, c'est l'heure de rentrer. Comment se passe le retour? Parce que j'imagine que justement, là, avec toute cette liberté, tu vas devoir aussi rentrer à la maison, te confronter à tes parents.
Ouais.
Comment ça se passe?
Ça a été très très dur parce qu'en plus je tombais follement amoureuse forcément quand j'étais aux États-Unis. Forcément j'ai rencontré le mec qui m'a invité au premier bal, tout ça, enfin la totale quoi. Et au point même que d'ailleurs j'avais envoyé une photo du prom où on avait été, donc le bal de promo là, où mon père avait paniqué apparemment parce qu'il était convaincu que c'était une photo de fiançailles ou de mariage quoi. Alors que bah, c'est vrai que les Américains font beaucoup ces photos là, il y a eu toute une petite trend sur les photos des années 90, mais moi je les ai en vrai, justement où j'y étais, et donc le retour a été quand même vachement violent parce que d'une part je quitte pour la première fois un monde dans lequel j'ai trouvé ma place, donc c'est pas facile. Et puis, je dois rentrer et donc retrouver ce pourquoi je suis partie, parce que je ne suis pas partie complètement par hasard. Il y avait quand même des choses qui faisaient que je n'arrivais plus à rester. Ça devenait assez dangereux même pour moi. Et que je n'ai pas pu annoncer réellement à mes parents. Je n'ai pas pu leur expliquer ce qui se passait. Donc, j'avais tout ça qu'il allait falloir que je mette en mots d'une manière ou d'une autre, ou qu'en tout cas, j'essaye de faire comprendre. Et qui a amené à ce que mon retour a été extrêmement violent pour moi. Enfin, ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué et je vais avoir 3 années vraiment très compliquées derrière pour arriver à retrouver un peu d'envie de me donner, parce que enfin de continuer. Par exemple, je vois l'été qui donc où je rentre, je me casse le poignet et je devais aller. Je devais aller faire une colo, une rando, et je demande à ma mère, écoute, voilà, est-ce que je peux pas retourner aux États-Unis plus tôt, enfin, parce que j'avais vraiment envie d'y retourner. En fait, ma mère m'interdit d'y retourner en m'apprenant 15 ans après qu'elle avait trop peur que je revienne jamais, en fait.
Ouais, et dans ton imaginaire, est-ce que tu arrives à te projeter et tu avais l'intention d'y retourner pour potentiellement ne pas revenir?
Ah, clairement.
Ouais.
Ah, clairement. Moi, on avait même projeté notre date de mariage, tout était calé. Oui, j'avais l'intention de ne plus revenir. Et moi, ma vie, à un moment, je l'ai projetée là-bas. Alors, avec la limite que, quand même, j'avais l'intuition assez forte que vivre vivre aux États-Unis, ça, y aurait un truc qui ne me conviendrait pas. Et notamment dans certaines représentations, quand même, parce que j'avais quand même une éducation politique qui était importante. Et pour le coup, les Américains n'ont pas du tout ça. En tout cas, l'Amérique classique, il aurait fallu que j'aille à l'université dans certains milieux intellectuels et qui n'était pas le milieu que je fréquentais à ce moment-là. Donc, j'avais accès à certaines choses, mais en tout cas, il n'y avait pas cette dimension-là qui était quand même très présente dans mon éducation et que, pour le coup, j'ai retrouvé plus en France qu'aux États-Unis. Donc, il y avait des choses où je sentais que j'aurais pas forcément fit-in totalement aux États-Unis, mais en tout cas, mes relations, mes proches étaient là-bas, quoi. Mon cœur était là-bas.
D'accord. Avant de passer à comment toi, tu as pu te projeter adulte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager sur ton enfance jusqu'à ton adolescence, dans le lien à tes parents, qui pour toi fait sens avec la maman que tu es devenue après?
Alors, il y a plein de petits trucs, mais je dirais que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec l'idée que... j'avais pas forcément un regard sur moi ou quelqu'un qui allait me que les pas, enfin, j'ai grandi sans l'idée de la famille protectrice.
D'accord.
Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que même si la famille était très présente, elle était plutôt étouffante que protectrice.
D'accord.
J'ai pas vécu avec l'idée que la famille t'acceptait comme t'es, quoi qu'il arrive. Et enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément joué dans ma parentalité à moi, c'est-à-dire de toujours permettre à ma fille de se sentir à sa place et de se sentir acceptée, aimée comme elle était.
D'accord. Tu te projettes, à partir de quel âge tu te projettes en te disant je vais être une maman, ou est-ce que tu avances sans jamais te poser la question de est-ce que je serai mère, pas mère?
Mais moi j'y pense depuis que j'ai 5-6 ans.
Ok. Non, mais c'est...
Depuis que je suis toute petite, assez vite, déjà je vois ma sœur qui kiffe les Barbie, moi je déteste.
Ouais.
Donc moi je préfère les poupons et j'aime jouer à la maman en fait.
D'accord.
Depuis toute petite, j'ai même... On a eu beaucoup de chats, enfin voilà, d'animaux et tout ça. Et en fait, ils venaient dans mon placard, les chats venaient dans mon placard pour accoucher. Enfin, pour mettre bas. On dit pas accoucher pour un chat, mais... et donc, je m'occupais tout le temps des bébés. Enfin, j'avais une espèce de truc. Et d'ailleurs, même petite, j'étais très souvent avec des plus petites dont j'étais un peu la grande sœur. Et notamment, j'ai passé beaucoup de temps avec une petite fille qui s'appelait Julia et qui vivait en caravane. Enfin, et je passais beaucoup de temps, en fait, dans la communauté rome, en fait. Enfin,
d'accord.
Et donc j'ai toujours eu cette espèce de truc, en fait presque pas formulé comme ça, mais le puisque tu te sens pas forcément bien à ta place dans ta famille, fais la tienne.
Ouais.
Okay. En fait. Et donc très vite j'avais comme projection que bah moi ma vie à moi ça serait d'être maman quoi. Enfin et puis alors il y a quand même un élément important qui est quand même dans mon histoire familiale. J'ai ma grand-mère paternelle qui a été déportée,
okay.
qui est revenue et qui quelque part a survécu en faisant des enfants.
D'accord.
Donc la maternité a un rôle pas anodin quand même dans l'histoire familiale et ça sauve les femmes.
Ouais.
Enfin, ça les détruit ou ça les sauve selon en fait. Donc voilà.
Et du coup, c'est intéressant et merci à toi de nous partager ça. Pas très longtemps, mais c'est quand même pas anodin d'avoir une grand-mère qui a été déportée. Mmh. Comment ça s'inscrit dans l'éducation? Comment on raconte ça à ses petits-enfants ou même à ses enfants?
Alors, il faut savoir qu'elle n'en a jamais pu en parler avec ses enfants.
Okay.
Mais alors, ce n'est pas tellement elle qui ne voulait pas, mais c'était son mari. Je crois.
D'accord.
C'était une autre époque. Et donc, mon grand-père n'était pas forcément très à l'aise avec l'idée de parler de ça. Il y avait une forme de culpabilité, qu'elle ait été déportée et que lui allait faire la guerre ailleurs. Et qu'il n'a pas pu la sauver. Donc, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 4 et 6 ans, mes grands-parents.
Ouais,
donc avant. Ils se sont même mariés officieusement avant tout début de la guerre. Enfin, dès qu'en 40, quoi. Avant qu'elle soit déportée et que lui parte faire la guerre vers l'Espagne. Enfin, pas d'abord en Espagne, ensuite en Afrique du Nord. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'un gros tabou.
Ouais.
Par exemple, voilà, moi, je me prends la première baffe de mon grand-père quand je demande pourquoi ma grand-mère est tatouée. Et pourquoi elle a un numéro tatoué sur le bras? Parce qu'elle l'a toujours gardé. Donc ça, j'ai 6 ans. Donc, tu vois, donc il y a d'abord du tabou. J'attendrai, en fait, de comprendre. Et je comprendrai autour de mes 10-13 ans ce qui s'est vraiment passé. Déjà parce que ma grand-mère a écrit un poème, en fait, pour chacun de ses petits-enfants. Parce que dans la tradition juive, à 13 ans, on devient adulte.
Ouais.
En fait, c'est pour ça que c'est autour de cet âge-là. Alors, même si on n'est pas du tout pratiquant, notre petit rituel familial, c'est d'avoir ce poème-là à nos 13 ans. Qu'elle a d'ailleurs donné à 10 ans ensuite à la génération d'après. voilà, il y avait donc déjà de comprendre ça. Et puis elle est venue aussi beaucoup en parler dans les écoles et notamment dans les collèges. Et elle venait justement en parler. Donc moi, par exemple, j'ai appris en même temps que presque toute ma classe ce qu'elle avait vécu. Alors, parce que j'avais pas forcément accès à d'autres choses. Il faut savoir que voilà, moi j'ai grandi avec là pour le coup un père qui se mettait à pleurer dès qu'il y avait Au revoir les enfants, le film. Mmh. Dès que ça parlait de la Shoah quelque part, il éteignait la télé. Enfin, il y avait une espèce de tabou tellement
c'est
énorme.
C'est sa maman à lui. Hein.
Ouais, c'est sa maman à lui. Et donc elle en a plus parlé avec nous petits enfants, en fait, qu'avec ses propres enfants avec qui elle n'avait pas le droit d'en parler. Et au point même que je me souviens qu'un jour elle m'avait dit, mais tu sais Benjamin, moi j'ai toujours voulu en parler. C'est les gens qui étaient pas prêts à écouter.
Ok. Donc, en fait, comme tu dis, il y a ça qui plane quand même. Enfin, planer, c'est même...
Oui, ça plane bien, ouais. ça plane sévère. Ouais.
Ça, d'accord. Et donc, toi, tu te construis avec toute cette histoire intrafamiliale et ces tabous, notamment. Et tu te projettes en te disant, un peu comme ta grand-mère, moi, je ne trouve pas ma place et je veux être maman, avoir ma propre famille. Tu rencontres donc le père de ta fille. Mmh. Est-ce que tu nous racontes cette rencontre?
Alors, ça a été une rencontre magique. Vraiment. Même encore aujourd'hui, je peux le dire, et j'en suis très, très heureuse, parce que je pourrais toujours dire à ma fille qu'il y a eu un vrai coup de foudre entre son père et moi. Enfin, ça, c'est une... Voilà, je rentre. C'était une soirée assez incroyable. J'étais avec... Il faut savoir que j'ai 22 ans, hein, quand même. Ça, c'est pas anodin. Voilà, on était avec des copines. Je vivais avec une copine à la maison à ce moment-là, qu'on vivait en coloc. On décide de sortir et tout. On allait toujours un peu le même petit rad où on allait et où... Ça passait un peu les musiques des années 80 qu'on tournait un peu en dérision, et notamment le « et tu tapes, c'est ta façon d'aimer », qu'on trouvait très très drôle. Et là, il y a un mec qui rentre, je me tourne vers Clochette, donc il se reconnaîtra si elle écoute. Enfin voilà, et je lui dis « si ce mec-là vient me parler, c'est l'homme de ma vie ».
Il ressemble à quoi?
Alors, il ressemble à Benton dans Urgence. C'est un mélange de Benton d'Urgence et de, j'ai oublié son nom, mais un des mecs du Feu de l'amour, qui a le visage avec le petit bouc là. Enfin voilà, enfin le
Nicolas.
Je sais plus son nom. Il y a tellement de saisons dans les Feux de l'amour que, enfin voilà. Mais en gros, voilà, c'est pour donner un repère un peu, mais c'est vraiment le mec.
Pour ceux qui connaissent pas, parce que bon, c'est vrai qu'on est d'une autre génération. Donc oui. Châtain, brun.
Métis avec un petit bouc, les yeux marrons, les cheveux très courts, grands, carrés. Enfin voilà, le mec parfait, quoi.
Tu parles de celui qui a joué dans SWAT.
Ouais. Possible. Mais je te montrerai okay. Après. Enfin, voilà. Mais donc, voilà, le mec rentre et je fais waouh, là, vraiment, je tombe sous le charme. Mon amoureux américain, c'était le sosie de Johnny Depp, c'est pour dire que j'ai que des sosies. Okay. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup moins. Mais ce serait moins sympa. Mais donc, voilà. Et il se trouve que dans les 3 minutes qui suivent, on se retrouve à danser avec Clochette, justement, sur début de soirée. Et il vient me voir en me disant j'espère que c'est ironique. Donc forcément il avait capté le truc, donc tout de suite le passe-passe s'enchaîne, même humour, même référence, voilà, on a les mêmes rêves partout, quoi, et politique et musical, et enfin voilà, à tous les endroits, quoi.
Ça veut dire que toi, dès que cet homme, en fait, il rentre dans la pièce, quand tu le regardes, déjà tu te dis, si lui il vient me parler, je fais ma vie avec.
Ah ouais, je suis convaincue que ça va être avec lui, et j'ai le j'ai envie de dire, à l'époque, j'avais encore des coups de foudre, mais après moi. Mais c'est vrai que j'ai ressenti quasiment la même chose que pour mon Américain, quoi. Enfin, ça a été aussi, mais même plus fort, puisqu'il faut savoir que mon amoureux américain m'avait demandé en mariage peu de temps avant. Je te raconte tout, tu vois. Bah et, ouais. Et en fait, il devait arriver 3 semaines après.
Sauf que
j'ai rencontré carrément.
Et là, tu as appelé l'Américain et tu lui as dit reste chez toi, t'es bien mieux.
Non, pas du tout, parce que il avait déjà ses billets, tout ça, et je me suis dit on verra, voilà. Et en fait, quand il est arrivé, on a passé une semaine très sympa. Il y avait toujours la même complicité et tout ça, mais pour moi, j'attendais qu'une chose, c'était retrouver Karim, qui m'avait complètement retourné le cerveau, quoi.
Ouais. Du coup, avec Karim, tu dis vous avez plein de points communs. Vous décidez de vous installer ensemble ou pas du tout?
Alors pas du tout au démarrage, pas du tout. On commence une relation, j'ai envie de dire assez classique, enfin comme n'importe quelle personne dans les années 90, enfin début 2000. On est en 2001 quand on se rencontre. Non 2000.
Tu vis encore chez tes parents à ce moment-là?
Non, non. Moi, je vis toute seule depuis que je suis rentrée des États-Unis. J'ai fait 2 ans avec mes parents, mais ça a été compliqué. Ouais. Donc, dès que j'ai pu prendre mon autonomie, je travaillais déjà. En fait, dès que je rentre des États-Unis, j'ai une forme d'autonomie. Et c'est un peu le deal avec mes parents. Ils sentent bien que je suis devenue un peu vraiment adulte, quoi, ouais. En partant. Donc, j'accepte certaines conditions, mais je pars le plus vite possible et je me retrouve autonome. Enfin, je suis nounou pendant que je suis au lycée. Enfin, je vais commencer à être responsable associative à 19 ans. Enfin, moi, je travaille très tôt, en fait, et de manière à pouvoir être autonome. Pas simplement un petit job à côté, quoi. Pas simplement pour compléter.
Donc, à 22 ans, quand tu rencontres Karim... Donc,
je suis déjà chez moi.
T'es déjà chez toi.
Moi, j'ai déjà mon appart, lui aussi, mais dans une autre banlieue. Enfin, voilà, et en fait, donc on a le côté un peu chacun chez soi, on se voit de temps en temps. Et puis, assez rapidement, parce que la question se pose, à l'époque déjà, moi je m'interrogeais un peu parce que je me disais, ça fait 6 ans que je prends la pilule, est-ce que les hormones c'est une bonne chose? Enfin, je me posais des questions qui sont des questions assez modernes finalement aujourd'hui. Et donc, en fait, je lui évoque que j'ai envie de changer de contraception.
D'accord.
Et là, il me dit, faisons un enfant.
Waouh. Avant cette proposition de construire une famille, en tout cas de faire un enfant, est-ce que vous projetez déjà tous les deux en vous disant quel parent vous souhaitez être?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais on n'en a pas du tout parlé autrement que comme ça, en fait. Okay. C'était vraiment un truc d'ado, quoi, quand même, faut le dire. d'ado. Pas très pensé, quoi. Enfin, mais il y avait le côté... Voilà, il me dit ça à un moment où, forcément, comme je t'ai dit, moi, depuis 5-6 ans, j'ai envie d'être maman, donc ça vient faire écho direct. Et lui avait aussi, de toute façon... ce qu'il avait pu me dire, ce qu'on avait pu se dire, c'est combien c'était important pour nous, l'idée de faire des enfants. Et, ouais. Et ça, c'était important. Et on avait, en effet, quand même beaucoup de repères communs, de références communes, de valeurs, malgré tout, assez proches. Par exemple... un jour, je vais découvrir que quand il était petit, il avait été suivi par... alors, c'était pas Rufo, c'était l'autre, le gros pédopsy français, enfin, j'ai plus son nom.
Par un pédopsy, en tout cas.
Hyper connu, que j'avais étudié à la fac, quoi. Okay. Et que, en fait, il avait, voilà, que sa mère avait toutes les références de Dolto, donc il y avait quand même des choses sur lesquelles... On avait des références tout à fait... Lui, il était en sciences de l'éducation. Moi, j'étais en philo et je travaillais beaucoup sur l'éducatif. Il était animateur. Moi, j'étais beaucoup dans les collèges aussi, parce que j'étais surveillante à l'époque. Donc, on avait quand même tous les deux... Une fibre éducative hyper importante. Enfin, en tout cas, dans la représentation qu'on en avait et dans ce qu'on s'en disait aussi à l'époque. Et puis, des valeurs... Pour le coup, j'ai même envie de dire même de représentation collective. On était tous les deux militants antiracistes. Enfin, on était on avait des représentations qui étaient communes, quoi, en fait. Donc
ça semble comme une évidence.
Ça semblait assez, à la fois assez évident et en même temps, je sais quand même là, si je suis très honnête, qu'au moment où on décide ça, je me dis bon, ça va pas marcher du premier coup. Donc on verra si c'est avec lui ou pas.
Ok. Donc, on se lance dans l'aventure et arrive ce moment où tu apprends que tu es enceinte. Comment ça se passe? Comment tu l'apprends?
Alors, comment j'apprends que je suis enceinte? Alors, c'est assez drôle parce que je me souviens, j'avais une tante qui m'avait dit, avec les gencives qu'on a dans la famille, quand tu seras enceinte, tu vas saigner.
Oh.
Et je commence à voir qu'en effet, quand je me brosse les dents, je saigne des gencives. Mais je me dis que c'est parce que je fume trop de clopes, tout ça, machin. Et puis arrive un deuxième temps où je me retrouve bloquée au supermarché, je ne mangeais jamais. Enfin, moi, j'avais une allergie même à tout ce qui venait de la mer.
Ok.
M-E-R, mais bon. Mmh. Et même quand j'allais me baigner dans la mer, je ressortais avec des plaques. Mmh. Et ça s'arrête à partir du moment où je suis enceinte.
Ok.
Et je me retrouve bloquée. Vraiment, c'était Champion à l'époque, pour dire, et du 13e dans la place d'Italie, et je me retrouve bloquée devant le rayon saumon fumé en me disant j'en ai trop envie, quoi. Et là, je me suis dit, il y a un truc.
C'est pas normal.
Il y a un truc bizarre, et ajoute à cela que j'avais un sommeil très léger, donc j'entendais toujours tout, et un jour, on m'appelle sur mon fixe qui est à côté de mon lit, et j'entends pas. Ça, ces trois trucs me font dire faut peut-être que tu fasses un test quand même.
Ouais.
Donc là, je fais un test de grossesse, tout de suite positif.
Ok. T'es enceinte de combien de temps
Je suis enceinte d'une semaine à peine, enfin de une semaine ou deux. Enfin, tu vois, c'est le début de retard de règles, quoi, parce qu'à l'époque, on pouvait pas le faire avant. Enfin, donc c'est vraiment sur au bout de quelques jours de retard de règles, je fais un premier test, pipi, tout ça. Je prends rendez-vous chez ma gynéco qui me fait faire les tests sanguins. Là, elle me dit « Ah, les taux sont pas top, et puis il y a peut-être eu un risque de toxo, de machin. » Donc, en fait, tout le monde me laisse entendre que je ne vais pas être que je vais pas rester enceinte.
Ouais, tu vas pas rester enceinte.
Et où qu'il y a un problème.
D'accord.
Et en fait, pas du tout, elle s'accroche sans aucun problème. Et en fait, il n'y avait pas de souci.
Il n'y avait pas de souci. Comment tu l'annonces à Karim?
Alors, Karim, je lui dis tout de suite que mon test de grossesse est enceinte. C'est là que le début des problèmes démarre, parce que il ne va pas me répondre.
Ok, lui envoies un texto,
Lui envoies un SMS, parce qu'il est 6h du mat, À l'époque, il fallait que ce soit dans les premières urines du matin, donc ça ne se fait pas n'importe quand dans la journée. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, donc je lui envoie un message en me disant, il est tôt, je vais m'endormir, machin. Pas de nouvelles pendant 24 heures. Là, je commence à me dire, il y a un truc qui déconne, là, et je commence à paniquer un peu, en fait.
D'accord.
Et il finit par me rappeler pour me dire qu'il est super content, mais qu'il faut qu'il s'habitue, tout ça. Puis en fait, enfin voilà.
Mais tu sens que c'est...
Je commence à sentir des trucs et puis je me dis, bon, c'est le début, on va voir, il faut le temps. Et puis je lui trouve plein d'excuses.
Mmh, bah oui.
Et puis comme en plus, il est quand même... Voilà, on est quand même sur le début, je sais pas si ça va durer, rester, si... Enfin voilà, tu sais, on est dans toutes ces questions-là, donc on reste un peu entre deux. Et puis justement, au moment où la question... que Nadja ne reste pas, je sais qu'il y a un moment il commence à me dire, ouais, si t'arrives pas à la garder, c'est que t'es pas une bonne femme quand même.
Ah ouais, donc, je commence à me dire,
et puis derrière, arrivera le moment où il me dira, et ça, et je me souviendrai toujours de ma réaction en fait là-dessus, où il me dit, mais tu vas voir, je vais être super cool avec toi jusqu'à ce que tu puisses plus avorter.
Ah ouais, donc le ton est donné un peu. Hein.
Ah ouais, le ton a été donné direct. Et je me souviens surtout de ma réaction où je me suis dit, qu'est-ce qu'il doit pas avoir confiance en lui pour dire des choses comme ça. Comme quoi, enfin voilà, c'est là où je suis tombée dedans direct, quoi, en fait. Et puis surtout, je vais apprendre que dans les semaines qui suivent, j'apprendrai surtout qu'en fait, il avait une autre nana.
Ok.
Qui est devenue quelqu'un d'ailleurs très proche de moi. Enfin, c'est voilà, aujourd'hui qui est une de mes meilleures amies, mais qui a voilà malheureusement été elle, c'est elle qu'on a le plus souffert de cette histoire, parce que pour le coup elle cherchait à avoir des enfants avec lui, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Moi je savais pas son existence, je découvre ça, il fait un enfant avec moi, quoi.
Donc il y a tout ça qui plane autour de cette grossesse. Du coup la grossesse se passe. Est-ce que tu te poses des questions avant la naissance de ta fille? Comment... Déjà, quand tu apprends le sexe?
Alors, j'apprends son sexe parce que c'est vrai que je demande à le savoir.
Ouais.
Déjà parce que Karim est convaincu que ça va être un garçon et que moi, je suis convaincue que ça va être une fille. Donc, je me dis, vaut mieux le préparer un peu à l'avance parce que sinon, ça va être tendax.
T'avais une préférence?
Moi, je n'avais pas vraiment de préférence, mais il faut quand même savoir qu'à ce moment, quand je suis enceinte, j'écris à ce moment-là, j'écris un mémoire, parce qu'à l'époque, on appelait ça des mémoires de maîtrise, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir, donc je me speed, et d'ailleurs, je ne vais même pas le soutenir cette année-là, je le soutiendrai 2 ans après, sur le complexe de castration, parce que je travaillais en philo déjà sur la psy. Et je travaillais sur le complexe de castration, et en écrivant ça, je me dis, j'espère que ce n'est pas un garçon quand même. J'espère pour lui que
surtout
c'est pas
si
un garçon.
Que...
Voilà. Bah oui, d'autant plus. Et puis avec tout le côté. Donc, j'avoue que je m'étais fait la réflexion de me dire ça va être tendax si c'est un gars, quoi. Et donc quelque part plus simple que ce soit une fille. J'avais essayé de préparer Karim là-dessus, tout ça. Et voilà, lui, il y a grosse déception quand même quand il apprend que c'est une fille au démarrage. Et puis parce que c'est comme si lui avait failli, quoi. Enfin, il y a un vrai truc de voilà.
Puis il était convaincu que c'était un garçon.
Ah oui, depuis lui, voilà, pour lui, il ne pouvait faire qu'un garçon. Et donc, bon, voilà, même s'il avait déjà 2 potes qui étaient papas, qui avaient tous les deux eu des filles, mais il voulait justement faire un peu la diff. Bon, il finit par s'y faire au fait que ça va être une fille, enfin voilà. Et puis arrive la réflexion sur le prénom, et je me souviens qu'une fois, je l'appelle, parce que voilà, j'avais plein d'autres prénoms. Moi, je voulais un prénom qui brouille un peu les pistes, parce qu'entre son père qui est donc métis, mais d'un côté Mauritanie-Sénégal,
okay,
parce que tu connais bien, de l'autre côté Normandie, tu vois, ouais. Donc, et moi, avec mes origines aussi un petit peu floues, dans tous les sens du terme, voilà, elle était, comme quand je l'ai annoncé à mon père était convaincu que cet enfant sera le prophète, parce qu'avec un père musulman et une mère juive, c'était une évidence. Mais parce que j'ai aussi toujours appris que pour moi, voilà, je fais partie de la commune, enfin des groupes de personnes, de populations assimilées juives qui considèrent que les musulmans sont nos cousins. Loin d'être nos ennemis, mais au contraire, on fonctionne ensemble et qu'on est tous arabes. Bref, donc voilà, à partir de là, il y avait donc quelque chose qui faisait que Nadja était plutôt attendue. Mais donc, je voulais un prénom qui brouille un peu les pistes. Et c'est vrai que j'avais proposé certains prénoms qui n'allaient jamais. Enfin, j'étais sur du Nora, Laïla, Nina. Enfin, tu vois, voilà, c'était les prénoms qui tournaient un peu dans ma tête. Je proposais de temps en temps à Karim, puis il me disait non, 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 non. Et puis, je savais, voilà. Et puis, un jour, je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai une pote de pote que je ne veux pas rencontrer pour l'instant, qui s'appelle Nadja, et je ne sais pas pourquoi, ce prénom est en train de s'imposer dans ma tête, qu'est-ce que t'en penses? Et là, j'ai Karim qui me fait, ouais, écoute, je ne sais pas, machin, je te rappelle, on ne vivait toujours pas ensemble. Hein.
Ouais, c'est ce que je comprends là.
À 4 mois et demi, on vivrait toujours, on a commencé à vivre ensemble, j'étais enceinte de 6 mois, je crois.
Ok.
Vraiment sur la fin. Et dès le lendemain ou le surlendemain, je le vois commencer à appeler mon ventre Nadja, quoi. Donc je me suis dit, ok, c'est acté. Mais assez vite, il va quand même me dire, ok, donc tu as choisi le prénom Moi, je choisis. Alors voilà, je choisirai le deuxième. Et si tu veux, on trouve d'un commun accord le troisième.
Ouais, super. Donc le deuxième prénom, c'est quoi ?
Alors je vais dire le troisième d'abord. D'abord parce que, le troisième, c'est Chloé, parce que donc moi, donc il y avait ma pote Chloé qui vivait avec moi quand on s'est rencontrés. Lui avait une cousine qui s'appelait Chloé, avec qui vivait avec lui. Donc c'était donc, ça tombait évident. Bien. Et le deuxième prénom de Nadja, c'est Zion.
Zion. Et tu nous expliques pourquoi Zion ?
Alors, c'est pourquoi original, c'est tout à fait original, faut savoir. Alors, je ça se dit pas forcément au micro dans un podcast, mais à l'époque, Karim avait une petite activité connexe. Il travaillait dans des bars, il organisait des soirées reggae raga, pas mal à Croix de Chavaux. Et ça lui arrivait de vendre des trucs qui se fument.
Ok.
D'accord, qu'il appelait la Zion.
Ok.
Donc déjà là, quand moi j'apprends ce prénom, je commence par me décomposer.
Ouais, parce que tu te dis.
Parce que moi je fais le lien
direct. En plus, lui te dit, c'est moi qui choisis le deuxième prénom. Voilà.
Et je fais le lien. Et j'ai quand même ma belle-mère en face à ce moment-là qui me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'il va falloir que je lui explique. Et donc là, je trouve l'argument de dire ouais, parce que le deuxième truc, c'était il avait été avec son frère, déclaré, savoir qu'en plus voilà, ils avaient bien bu avant. Enfin voilà, c'était vraiment les bonnes conditions quoi. Enfin. Et donc, il m'avait dit, ouais, c'est Zion, parce qu'il y a le côté comme ça, montagne de Sion, la Bible, tu vois, l'ancienne, Genèse, tac, c'est dans tous les livres. Enfin, je fais, oh là là, ok, d'accord. Donc, c'est Zion, le Zion.
Ouais, ok.
Donc, je lui dis, le soleil, la joie, le.
Il faut bien trouver quelque chose à dire. Hein.
Mais Zion, c'est un prénom biblique, hein, et en effet, là, pour le coup, à la fois juif, musulman, enfin, ça, c'est bon, ça, et très rasta, surtout. Et alors voilà.
Quel beau blasphème.
Exactement. Et surtout, ce qui a pu me rassurer un petit peu derrière et qui m'a permis quand même d'avancer un peu là-dessus, c'est que y a Lorraine Hill qui a eu son fils Zion. Et donc, Nadja, quand elle écoute tout Zion, c'est sa chanson.
C'est sa chanson. À 6 mois, il s'installe avec toi. Arrive le moment, tu perds les os ou pas ?
Non. Alors, non, j'ai pas vraiment perdu les os. Donc, le moment de l'accouchement, parce que même s'il vit à la maison, on est. Enfin, voilà, on est.
Décalé
un peu. Pas hyper présent, mais comme beaucoup de jeunes hommes aussi. Enfin, il a 27 ans hein, aussi. Ouais. Hein, faut pas. Tu vois, j'en ai 22, il en a 27. Hein, donc, on n'est pas vieux. Hein, enfin, aussi, on est quand même encore des grands ados, quand même, objectivement, avec le recul. Donc, il n'est pas hyper présent. Il y a même une fois où je vais à la maternité et en fait, ils m'ont dit, bah, écoutez, vous n'êtes pas loin, mais vous pouvez peut-être rentrer, peut-être 24 heures. Ça serait dommage qu'on vous garde, tout ça. Et heureusement, puisque finalement, il n'aurait pas été là à la naissance sinon. Et donc, je suis déclenchée, en fait.
Il est avec toi, alors ?
Bah oui, parce que là, pour le coup, il y a un rendez-vous. Donc là, je vois, c'était lundi matin où je devais être à la clinique, donc à 7 heures. Et là, je lui dis, le dimanche soir, tu ne bouges pas. Okay. Je prends les clés, tout ça, je fais en sorte qu'il ne bouge pas, quoi, pour qu'il soit là. Le lendemain matin, je le réveille, on y va à pied. Et donc, je lui dis, viens, là, je vais accoucher. Okay. Donc, je l'ai pris par la main et voilà.
La rencontre avec Nadja, du coup ?
La rencontre avec Nadja, c'est magique. C'est un moment incroyable. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une gynéco qui m'a accouchée. Qui a été quelqu'un de formidable parce qu'elle m'a fait. Alors, ça se faisait vraiment pas à l'époque, mais elle m'a fait sortir Nadja de mon ventre, en fait.
Okay.
Elle m'a fait
c'est moi qui l'ai tenue,
elle m'a fait sentir sa tête, enfin, des choses assez incroyables. Alors que pour le coup, tu vois, j'étais déclenchée, t'avais la péridurale, les trucs. Alors, moi, j'ai en plus eu la péridurale parce que là aussi, donc tout le monde était là. Alors, votre mec, c'est Benton, avec son truc et tout, machin. Sauf qu'ils arrêtaient pas de me dire, mais par contre, en fait, on va faire en sorte qu'il se calme, donc on va vous mettre une péridurale que vous le vouliez ou non en fait, parce que là il est en train de péter un plomb, et on va pas le gérer lui, donc voilà. Donc, et donc au moment où Nadja sort, je la prends tout de suite dans mes bras et tout, et d'ailleurs ça c'est une phrase que Karim m'avait dit, il m'a dit, mais d'ailleurs j'ai halluciné, t'as pas vu qu'elle avait un peu de merde là, du sang là de,
ouais t'as rien vu.
Moi j'ai rien vu du tout, moi j'ai vu ma fille. Enfin, j'ai vu ma fille et à partir de là, il n'y avait plus rien qui comptait d'autre, quoi, en fait. Je l'ai prise tout de suite, je lui ai donné le sein. Enfin, j'ai eu une espèce de réflexe tout de suite, quoi. Mais je... Voilà, là, pour le coup, l'intuition a suivi son truc, quoi. Et il y avait quelque chose de relativement évident, en fait. J'étais vraiment heureuse et fière d'elle, quoi, en fait. Enfin, voilà, une espèce de joie totale, quoi, quand je la rencontre.
Et lui, il exprime quoi quand Nadja arrive ? À part, t'as pas vu qu'elle était pas très propre.
Alors, lui, il est à la fois très content, très fier, parce qu'en plus on lui donne pour le bain, tout ça, on lui propose de couper, et puis il n'a pas osé hein, quand même de couper le cordon, il était un peu mal à l'aise. Et puis il y a quelque chose qui va, en tout cas moi, me donner le ton de ce qui va se passer derrière, c'est qu'assez vite, il va me dire par exemple, tu l'as eu pendant 9 mois, tu ne la toucheras plus pendant 9 mois.
Ah ouais, d'accord.
Qu'il s'est senti exclu, que c'était pas normal que les hommes n'aient pas leur place dans une salle d'accouchement.
Donc il vit ça injustement, un peu.
Très injustement.
La mise au monde et toute la grossesse, en fait, il vient te renvoyer à ce moment-là qu'il n'a pas participé.
Mais ça va même un peu plus loin, parce qu'il va même me dire je veux tes seins.
Ah ouais, ok.
Je veux l'allaiter.
Donc il est jaloux.
Il y a une vraie grande jalousie, oui. Okay. Très très forte. Qui n'est pas facile à gérer. Quand en plus, tu es une toute jeune maman et que tu ne sais pas trop comment gérer. Donc j'essaye, par exemple, de toujours lui laisser le temps pour le bain, sauf qu'il rentre une fois sur deux, donc c'est compliqué. Tu essayes d'imposer quand même un petit rythme à ton bébé pour qu'il dorme un peu. Et puis quand il rentre,
il la réveille.
Et puis les quelques fois où, à la maison... À un moment, je me souviens, quand on venait de rentrer de la maternité, je lui dis, là, j'ai besoin de me reposer un peu, est-ce que tu veux bien t'en occuper? Et en fait, dès qu'elle hurle, il ne supporte pas. Mais parce qu'il est jeune aussi. Aujourd'hui, il est redevenu papa à 50 ans. Ça se passe beaucoup mieux pour lui. Il est très jeune. Il est, à ce moment-là, en plus, dans pas mal d'addictions. Donc, ça n'aide pas non plus. Et puis, donc il a une réaction à la fois hyper aimante, parce qu'il a toujours beaucoup aimé sa fille, et en même temps hyper pathologique. Par exemple, 3 jours après la naissance de Nadja, moi je vais le récupérer avec une jambe en moins parce qu'il s'est foutu sous le métro.
Ah oui, d'accord.
Donc on n'a pratiquement pas voulu me laisser sortir de la clinique.
Comment tu vis cet épisode en sachant que tu viens de mettre ton enfant au monde? C'est violent.
Je me rends, en fait plus compte de la violence en te le disant vivant. En le vivant, en te le disant. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus clair. Même ma fille est au courant. Sinon, j'en parlerai pas. Mais j'ai mis beaucoup de temps à lui en parler aussi, parce que je voulais pas qu'elle grandisse avec cette image-là. Mais c'est vrai que ce soir-là, je me souviendrai toujours, et je sais que ça a beaucoup marqué Nadja encore aujourd'hui, même si elle s'en rend pas compte, mais ça, dans son comportement et dans ce qu'elle est, c'est que je lui dis, écoute Nadja, protège-toi, c'est les histoires de tes parents, c'est pas les tiennes. Pense à toi.
C'est important.
Ça sera à toi, dors, protège-toi, fais autre chose. Et Nadja a toujours très bien dormi.
Très bien.
Et énormément dormi. Elle, c'est une grosse dormeuse et elle a toujours su mettre à distance. Même parfois, c'est même pas toujours simple pour elle encore aujourd'hui d'arriver à s'impliquer dans les histoires qui ne sont pas les siennes. Mais quelque part, tant mieux pour elle. Mais donc, déjà pendant la grossesse, je savais qu'il y avait des chances pour que je finisse pas ma vie avec cet homme-là. Que j'allais devoir. Que j'allais certainement devoir élever Nadja seule pendant un bon moment, mais j'espérais encore que la naissance fasse changer les choses.
Et ce soir-là,
j'ai compris que ça ne changerait pas. En fait, c'est le soir où j'ai compris qu'il allait falloir que je le quitte à un moment, et qu'il allait falloir que je prenne le temps d'être prête à le faire.
Ok. Comment, lui, il est en convalescence?
En convalescence moyenne, parce que il a une jambe un peu abîmée, mais en fait avec un peu d'antalgique, c'est passé très vite, quoi.
Ok. Comment vous prenez décision vis-à-vis de Nadja? Donc toi, avec quand même en cloche de fond ce truc de faut que je mette des choses en place parce que je sens que ça va pas le faire. Lui qui est éloigné de cette réflexion, ou est-ce que tu partages avec lui?
Je peux pas du tout le partager avec lui parce que ça serait insupportable pour lui. Puis j'ai beaucoup de pression parce qu'en plus c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à expliquer aux autres comment ils doivent être. Moi j'avais beaucoup de, par exemple, moi je travaillais, j'étais surveillante à l'époque à plein temps, donc à l'époque on était fonctionnaires, donc je bossais tous les matins à 8h. Il pouvait me tenir debout la nuit jusqu'à 4-5 heures du matin pour m'expliquer comment j'étais une mauvaise mère, comment je ne savais pas tenir une maison, comment je savais pas faire, comme tout ce que je savais mal faire. Donc, c'était pas possible d'en parler avec lui du tout. C'est-à-dire, l'idée que je parte, en fait, il a fallu que, pour que j'arrive à comprendre qu'il est, enfin que vraiment, enfin ça travaillait dans ma tête que j'allais peut-être pas rester toute ma vie. Je sais que j'ai beaucoup écrit de lettres à Nadja à ce moment-là que comme parfois quand que je cachais parce que sinon en fait s'il tombait dessus, c'était vraiment compliqué. Et puis surtout il lisait tout ce que je faisais, donc enfin voilà. Je tenais des carnets que j'ai dû arrêter. Enfin voilà, mon ordinateur j'ai dû le balancer. Enfin bon, donc parce que j'avais les premiers ordinateurs, il n'y en avait pas encore de mot de passe à l'époque. Et bref, donc j'ai écrit des lettres beaucoup à Nadja, celles que j'ai cachées, que j'ai retrouvées, où je disais déjà tes parents vont peut-être pas rester ensemble, t'es encore dans mon ventre, t'es encore petite. Enfin donc déjà je commençais à avoir
à mettre
cette intuition là et de pouvoir lui expliquer à elle, mais lui j'ai pas du tout pu en parler avec lui jusqu'à ce que en fait je sois suffisamment prête. Et je vais même dire, voilà, moi j'avais commencé à avoir un psy en fait au moment où j'ai, un peu avant la naissance de Nadja et un peu avant d'être enceinte, et c'est un jour en voyant ma psy pleurer que je me suis dit là il faut que je m'en aille, quoi. Parce que si elle pleure, c'est qu'il y a un problème.
Quelque part dans ton récit, et je te remercie pour ça, pour cette authenticité, on voit quand même que quand tu étais petite, c'était un peu compliqué, tu ne trouvais pas forcément ta place et que tu espérais justement le jour de la naissance de Nadja pour occuper cette place. Mais en fait, tu tombes dans les travers d'un homme qui t'abîme davantage. Comment tu prends cette décision au-delà du fait que la psy, tu la vois pleurer, que tu te dises
il
se passe quelque chose. Ce jour-là où tu dis stop, c'est terminé, quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est d'abord toi ? Est-ce que c'est Nadja ? Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que tu leur dis ?
Alors mes parents ne savaient rien du tout. Alors après, ils n'ont pas voulu voir. Il faut quand même savoir que toutes les portes de mon appart étaient défoncées.
Ouais.
Donc il suffisait de venir chez moi pour savoir un peu. Mais bon, avec l'idée de oh, bah, c'est mieux qu'ils tapent dans les portes.
Ouais.
Donc oui, c'était la réalité. Et c'est vrai, c'est dans l'idée, c'est dans mieux. mais donc non, mes parents n'ont pas vraiment voulu savoir, ils ont voulu voir. Et j'ai caché aussi, attention. Hein, ouais, moi, j'étais très très forte pour cacher. J'avais complètement tout dissimulé pour ne pas que ça se voit, parce que c'était un échec pour moi aussi, parce qu'il y avait quelque chose de j'avais besoin de prouver des choses aussi, donc il y avait quelque chose qui était un petit peu difficile. Le moment où en fait je décide de partir, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la semaine d'avant, mon petit voisin qui commence à parler m'appelle salope, en pensant que c'est mon prénom.
Ok.
Là, je commence à me dire, j'ai pas envie que ma fille grandisse avec ça, qu'il y a un événement qui fait que je fais pas la bonne, j'ai pas la bonne réaction à une attention qu'il a et qui fait qu'il m'enferme dans la maison et que pendant 4 heures avec les batteries de téléphone enlevées, je me retrouve séquestrée.
Tu te sens en danger en vrai.
Bah, j'ai été réel. Enfin, aujourd'hui, avec le recul,
t'étais en danger.
J'étais en réel danger et à pas mal d'endroits. J'ai essayé de fuir chez les voisins. Donc je vais mettre une semaine, en fait, je m'étais même inventé une chanson où je me disais, faut que je le quitte. Enfin, je sais plus, je me souviens plus que de ce passage-là, mais j'avais inventé une chanson. Et en fait, il suffisait que je sorte de ma cuisine où je me la chantais pour arriver à pouvoir lui dire. Et je le voyais dans le salon et là, poum, j'y arrivais plus. En fait. Et donc, il a fallu que j'attende qu'il redescende, parce que c'est comme beaucoup de gens qui ont ce type de problématiques et qui sont aussi des pathologies, attention, c'est des souffrances. Il y a le pic de violence, et puis après il y a une redescente un peu dépressive. Et en fait, j'ai attendu cette redescente pour lui dire, écoute, là, je voudrais qu'on se sépare. Et il n'a pas compris. Et en fait, en fierté, il est parti en disant, puisque c'est comme ça, machin. Et en fait, j'ai fait un truc très étonnant, en mode Omar m'a tué. Mais vraiment, parce que j'ai envoyé un SMS, j'ai quitté Karim, ER. Donc c'est pour ça. Et je l'ai envoyé à tout mon répertoire, mes parents compris, enfin tout le monde. Ouais. En fait. Et en fait, quand il est revenu pour prendre 2-3 affaires, en pensant que je m'étais calmée, il m'a vu au téléphone en parler. Et là, ça a pris de... Et là, c'est devenu réel. Et à partir de là, il n'y a pas eu de retour en arrière. En tout cas, il y a eu des moments aussi où il y a eu des retours et des fluctuations, mais c'était calé, c'était fait et on n'était plus ensemble.
Comment tu prépares les choses avec Nadja, du coup ?
Nadja, un an. Donc Nadja, ça ne change rien pour elle, quelque part, objectivement.
Mais pour toi, en tant que maman, dans l'organisation,
En fait, ce que ça va changer pour elle et pour moi, c'est le week-end sur deux. C'est que c'est le truc, ça, pour le coup. Et en fait, c'est vrai que j'ai attendu. J'ai allaité Nadja jusqu'à 8 mois.
Okay.
Et donc, je savais que j'attendais la fin de l'allaitement, que je tiendrais jusqu'à la fin de l'allaitement et que ça ne serait pas avant parce que je voulais préserver quelque chose. Donc, elle va... D'abord, je commence par là, pour le coup, l'envoyer chez mes parents qui sont en Bretagne pendant 2 semaines. Là, contre l'avis de Karim, mais là, je fais là, il ne faut pas qu'elle soit là-dedans. C'était quand même très, très, très violent comme moment. Et pour lui, pour moi, et, voilà, et puis l'état dans lequel... voilà, j'avais des menaces de mort tous les jours. Enfin bon, c'était pas, c'était pas, je voulais pas qu'elle soit là-dedans et je dormais plus. Donc, c'était pas top. Et puis après, quand elle revient, donc il va y avoir les premiers week-ends qui commencent à s'installer. Assez vite, moi, je lance une démarche JAF. Parce que pour le coup, je suis...
Donc, heureusement pour les auditeurs, JAF, juste
affaires familiales. Et je suis déjà très, très convaincue de la nécessité de mettre la loi là-dedans.
Ouais.
Parce qu'en fait...
Tu sens qu'il y a quelque chose.
Et puis le commun accord, il va pas tenir. Et je sens en plus que le commun accord, ça va pas servir Nadja. Et j'ai la chance d'avoir une tante pédiatre qui me dit, c'est pas pour toi, c'est pas pour lui, c'est pour elle. Parce que c'est pas les parents qui doivent décider de la vie d'un enfant.
Exactement.
En fait, voilà.
Ouais.
C'est quelque part, ce sera ni ta faute ni la sienne. Ça sera juste le JAF. Si elle veut en vouloir à quelqu'un, ça sera au JAF.
Ouais.
Et quelque part, ça m'a beaucoup parlé. Donc je vais faire les démarches. Et comme j'ai pas spécialement de... On est en 2003, hein. On n'est pas dans une époque où on parle des violences conjugales, où on parle de la parentalité toxique, tout ça, du tout. Donc, un week-end sur deux, la moitié des vacances, point barre.
Nadja va commencer à grandir. Est-ce que tu as des exemples de prise de position éducative forte? J'imagine que tu dois en avoir à l'appel. Avec justement Nadja, dans ce contexte aussi de séparation, peut-être aussi par rapport à tes parents, parce que quand on a un enfant, quand on est seul, la place des parents, des grands-parents, elle n'est pas forcément évidente. Est-ce que tes parents, du coup, te laissent gérer ta fille, te font confiance dans l'éducation de Nadja ?
Alors, je ne pourrais pas dire qu'ils ont eu une totale confiance, parce qu'ils n'ont jamais eu une grande confiance en moi, mes parents. Parce qu'ils me sentaient peut-être plus fragile, plus machin, plus truc. Enfin, en tout cas, voilà, ils n'ont jamais eu une très grande confiance en moi. Donc oui, c'était un peu surprenant pour eux. Et puis, ils s'attendaient à ce que je me repose beaucoup sur eux, ce qui a été quelque chose que je n'ai absolument pas voulu faire. Mais par contre, j'ai toujours refusé que Nadja paye mes relations avec l'entourage. Par exemple, avec la famille, ce n'est pas parce que moi, je pouvais avoir des difficultés familiales qu'elle allait avoir les mêmes. Donc, par exemple, si... même si de temps en temps ma mère me saoulait sur plein de trucs, Nadja pouvait quand même avoir des temps avec, et pareil avec son père. Et donc, en tout cas, un des partis pris que moi j'ai eu, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, parce qu'aujourd'hui encore, c'est des choses avec lesquelles je discute avec moi-même et avec ma fille, mais c'est surtout de ne pas influencer ses relations.
Ouais.
Ni avec son père, ni avec ses grands-parents. C'était à elle de se construire son histoire avec
c'est
eux.
C'est ça. Et de faire ses choix, en fait.
Et faire ses choix en connaissance de cause. Par exemple, son histoire sur sa première année, elle ne l'a appris qu'à 18 ans.
Et ce sont des choix, de toute façon. Hein. C'est ce qu'on dit tous les jours, la parentalité, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu as procédé. Quel temps fort ont marqué l'éducation de Nadja dans les prises de position, les désaccords, comme tu veux?
Il y a eu pas mal de temps fort. Il y a eu déjà l'idée de... Enfin, je vois l'école, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, Nadja a sauté une classe et c'était quelque chose de difficile pour moi à vivre. Pour moi, l'école n'était pas un lieu d'apprentissage à proprement parler. L'école était surtout un lieu de vivre ensemble. Donc d'apprendre à faire avec les autres, surtout que j'avais qu'une fille, elle n'avait pas de frères et sœurs. Donc c'était d'autant plus important. Donc elle a toujours fait des sport-co, du basket, beaucoup notamment. Et puis de garder à l'idée qu'à l'école, on apprend à faire avec les autres et donc aussi à jamais se mettre trop en avant. Donc par exemple, je sais que ça a beaucoup surpris, et Nadja, ça c'était un truc qui était assez fier, quand elle ne se faisait pas punir si elle aidait les autres à copier, par exemple. Au contraire. Au contraire, je disais, de toute façon, la maîtresse l'a déjà puni, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis moi, je suis assez bien, c'est bien en fait. Ou par exemple, je lui ai toujours appris à pas balancer ses potes. C'est des trucs tout bêtes, mais qui étaient plus des... En fait, qui étaient des trucs où, pour moi, il était important que Nadja ne grandisse pas trop dans l'individualisme, parce que justement, enfant unique. Donc déjà, il y a une espèce de... un temps fort important qui était d'en faire une enfant de fratrie, même si elle était unique. Enfin, donc d'avoir toujours plein d'enfants qui passaient, de m'occuper d'autres. Enfin, voilà. Et donc ça a été un élément un peu fort.
Juste quand tu dis ça, il y a quelque chose qui me saute, qui vient comme ça là. Comment du coup tu fais pour que elle soit justement pas trop individualiste, mais qu'elle fasse la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Parce que quand je t'entends dire de pas balancer ses potes, etc. Bah oui, parce que c'est quand même important de faire des choix à certains moments. Mais quand ton pote fait un truc mal, vraiment mal, comment est-ce que tu as réussi à trouver un juste milieu, ou est-ce que tu l'as laissé justement faire ses choix et après tu reviens dessus, ou est-ce que tu mets une limite en disant ouais, balance pas ton pote, mais bon, en même temps, y a certaines choses qui sont graves.
Alors, pour le coup, c'est vrai que sur les choses graves, on a, enfin, quand je lui dis surtout pas balance pas tes potes, c'était par exemple plutôt l'idée de on n'allait pas faire de la délation, quoi. Enfin, on n'allait pas aller dire c'est machin qui a fait ça. Ou de, voilà. Après, ça voulait pas dire couvrir des choses graves. Et d'ailleurs, c'est elle la première sur certaines choses qui a commencé à venir me chercher en me disant ouais, mais quand même, s'il y en a qui font ci ou qui font ça, qui agressent machin, ça, je veux pas cautionner ça. Donc, en fait, elle a vite par elle-même venu questionner ça, et sur des endroits où je lui disais oui, mais ça, c'est pas tes potes, en fait. Elle me dit bah oui, non. En fait, voilà, c'est bien, choisis bien tes potes.
C'est ça, et c'est intéressant de s'être arrêté 30 secondes là-dessus, parce que ça montre bien aussi que des fois, on peut faire confiance à nos enfants et ne pas penser qu'ils sont pas, faire appel à leur libre arbitre, parce que quand ils savent ce qui est bien et mal, finalement, même quand tu dis ça, tu vois, elles te re-questionnent. Merci, et du coup, tu allais dire un deuxième temps.
Alors, le deuxième temps fort en termes d'éducation, Nadja, je dirais aussi, sur la scolarité, le rapport, et puis le fait, je sais qu'à un moment, et aujourd'hui je suis très fière de ça, je sais que même, elle ne va plus m'en vouloir, mais moi j'en suis très fière, il y a eu un moment quand elle était en troisième, parce qu'elle a eu un moment un beau-père qui lui faisait faire des castings, et moi j'étais pas très pour... j'acceptais qu'elle fasse un peu des castings, mais j'espérais qu'elle soit prise nulle part, en fait. Et il y a un moment où j'ai eu une agente qui m'a beaucoup sollicité pour qu'elle fasse du cinéma à 14-15 ans, et j'ai interdit. Et aujourd'hui, en fait, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là. Et elle le comprend, même si elle m'en a voulu un temps, même. Hein, mais parce qu'elle, c'est vrai qu'elle a du talent. Elle a du talent là-dessus. Elle prend la lumière. Elle se rend. Voilà. Mais je savais ce qu'elle allait incarner. Et ça, pour le coup, pour moi, c'était hors de question. Ça
n'inspirait pas ça pour elle.
Non, du tout. Et à être une enfant star, certainement pas.
Ok. Est-ce que tu as envie de témoigner ou de partager quelque chose sur le parcours que tu as pu avoir avec Nadja? Aujourd'hui, elle est grande, c'est une adulte. Sur quelque chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs, que tu as pu traverser, avec peut-être un tips, conseil, c'est un bien grand mot, mais comment toi, tu as trouvé ta solution et,
Je vais parler d'un moment qui nous attend tous, qui est le moment où les enfants commencent à nous remettre en cause et qui n'est pas forcément le moment le plus facile à vivre. Et qui est en fait quelque chose... Moi, je sais que j'ai beaucoup remercié ma fille d'avoir fait ça aussi, parce que justement, plutôt que d'avoir été un peu comme mes parents, à le vivre comme juste une remise en cause pour faire mal, moi, je lui ai dit, ça me permet d'avancer, moi aussi, et tu me permets d'avancer aussi, de re-questionner des choses... Et voilà, et d'accepter qu'il n'y a pas d'éducation parfaite. Le tips que je donnerais, c'est de rester toujours ouvert à ce que vos enfants vous disent, en fait. Et même quand ça fait mal, et surtout quand ça fait mal. Les enfants savent très bien qui nous sommes, ils nous reconnaissent. Et autant, c'est drôle parce que voilà, comme j'ai pu te dire, j'ai toujours essayé de lui donner une image d'elle-même la plus positive possible. Et pourtant... elle continue, elle, à son endroit, toutes les zones de non-confiance, c'est de ma faute. Et c'est logique, et c'est quelque part le jeu, avec en plus le fait que nous, on n'a pas de triangulation, donc c'est vraiment moi et elle, et même si son père a toujours été là quelque part, de temps en temps, je suis obligée de lui rappeler qu'elle a un père, et que donc il y a peut-être des trucs avec lui aussi, pas que moi. mais je suis la première sur sa route, et c'est aussi ça, être un parent présent, c'est être le premier sur la route de son enfant, et donc le premier aussi à en prendre. Et c'est pas grave. Si les enfants sont en capacité de vous remettre en cause, c'est qu'ils sont intelligents et qu'ils sont bien élevés.
Et qu'ils sont en confiance en plus.
Et qu'ils sont bien élevés au sens, pas bien élevés au sens poli, mais bien éduqués au sens où c'est ça la première phase de l'émancipation. C'est de remettre en cause ses parents.
Ouais. Pour toi, être parent, c'est du coup acquis ou inné?
Ah, pour moi, c'est complètement de l'acquis. C'est complètement de l'acquis et c'est complètement une idée de, qui se construit, qu'on apprend, que chaque enfant nous apprend à être parents différemment et que si on ne doute pas de soi et de sa parentalité, je pense que c'est la pire des choses.
Ouais. Eh ben, écoute, je pense que c'est un très beau mot de la fin.
Ben, merci à toi, en tout cas. J'ai raconté plein de trucs. Ouais, hein. Tu m'as fait parler. Hein.
Ouais, mais... À chaque fois, je me fais la même réflexion en me disant, mais rajoutez-nous une heure. Merci, Benjamine.
J'espère merci à toi, vraiment.
Que tu as passé un bon moment.
J'ai passé tout seul.
Ouais, c'est passé vite. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On continue à remercier Mon Paris FM qui nous donne la possibilité de nous exprimer en tant que parents. Et surtout, n'oubliez pas de parler de cette émission à vos amis parce que l'idée, c'est vraiment que chaque parent puisse se reconnaître dans des parcours ou dans des morceaux de parcours. Et c'est ça, la promesse. Merci à tous et
merci.
Surtout, n'oubliez pas, personne ne doit rester à l'arrêt. Ciao.
Merci, amis.